Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 en direct depuis les studios. Nous sommes mardi matin, il est 11h et c'est une vraie joie de vous retrouver. Ce matin, nous sommes avec un activiste de la poésie sonore qui a une activité multiforme autour de ce genre de performance et qui va nous en parler, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Zaoum, en hommage aux futuristes russes, ce dont il va nous parler. Ensuite, en deuxième partie de l'émission, nous aborderons les Pink Floyd à l'occasion de la sortie d'une forte revue, disons, enfin c'est un bookzine, donc sur le paradigme de fanzine, donc de la même façon, là nous avons un bookzine sur l'année 1969, donc tout sur les Pink Floyd pendant l'année 69, et autour des Pink Floyd, toute la culture de l'époque, le cinéma, la musique et le vocabulaire permis ou interdit aux États-Unis dans les médias, comme par exemple l'emploi du mot « fuck ». Bonjour à vous trois. Et nous allons commencer avec Patrice Cazel.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Sur son Zaoum. Et pour commencer, nous allons passer à une petite minute de son que Patrice nous a amené. Et donc nous allons avoir une petite démonstration de son univers sonore.
Tu vins sans terre, partage dissement, à coindre diversitude, au champ port des sanguimorphes, à terre d'asmon, à la tectonique des vores. Nous serons sirupeux, sirupeux de la moelle, et la tanche qui nous proie, et lousse qui nous verge. À l'ambré des corps finaux, sans dour départ qui chait, autant, autant qu'espoir d'immai, ravine à ravore à revin. Au coupir des suites, avec un signor, et qu'un signor des morts, à la vinge dinar, sous-trate et militant, militant de la voix des socs, des sigélismènes dourés. Oh! Qu'est soindre à l'us des roches, et du pain épicé à mélèze, et ça dire, qu'est dans choix nous trouvons à l'istour des mènes.
Merci, et donc, quelle est cette langue étrange, Patrice?
C'est, oui, une langue étrange, étrangère, un petit peu par rapport au vrai français, comme on dit. Je voudrais revenir, oui, sur... C'est bien de commencer par cet extrait, parce que ce qui est intéressant, c'est son contexte. C'est quoi ce qu'on a entendu? Ce qu'on a entendu, c'est moi qui marche pendant une randonnée dans les Alpes, avec le vent, avec le soleil, avec... Puis tout d'un coup, pendant la randonnée, comme bon, je suis modestement poète, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui m'occupe de la parole et de la langue, en marchant, selon le rythme de la marche, bon, plus ou moins rapide comme ça, au bout d'un moment, les éléments autour de moi, la sueur, le soleil, tout ça, me portent à parler. Mais je ne parle pas normalement, c'est-à-dire ça devient une sorte de parole intérieure, une sorte de surgissement, je dirais tout simplement, un surgissement de mots qui sont déstructurés, qui sont accompagnés de sons, de cris, de... Voilà, je me laisse aller à quelque chose de terriblement primaire en marchant. Bon, en général, bon, quand on est plusieurs, je m'écarte un petit peu parce que, bon, les gens peuvent trouver ça un petit peu bizarre. Et puis, voilà, et souvent... En marchant, souvent, parce que je vais souvent dans les Alpes, ça m'arrive. Alors, ce que je fais, je me dis, il faudrait quand même pas que ce soit perdu. Bon, c'est bien qu'il y ait des oiseaux, les marmottes qui entendent ça, mais... Donc, paf, je mets mon portable, et ça, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire, je mets enregistrement sur mon portable, et puis c'est parti. Mais je ne sais pas du tout ce que je dis. C'est-à-dire, ça part. Il y a quelque chose qui est généré, comme ça, une sorte de rythme, que j'ai appelé plus tard, comme tu as dit en référence à Khlebnikov, du Zaoum. Maintenant, bon, soyons prudents, dans le Zaoum, j'en ai gardé vraiment que l'esprit. Ça n'a pas grand-chose, au fond, à voir avec le Zaoum du futurisme de l'époque. Parce que, bon, c'est vrai que Khlebnikov, il était un petit peu... Bon, il était perché, il était dans des choses transmentales. Il voulait parler à tout le monde avec sa langue universelle et tout ça. C'est très intéressant, Khlebnikov, mais bon, modestement, voilà, j'aime bien ce mot-là, Zaoum, donc je lui ai piqué, d'ailleurs je m'en explique un petit peu dans le début du livre, mais c'est pas véritablement le Zaoum de Khlebnikov, c'est autre chose. Et c'est bien parce que, d'avoir mis cet extrait, parce que voilà, c'est une ouverture de comment ça se passe, la poésie pour moi. C'est-à-dire, c'est un surgissement, moi j'ai rien à dire, c'est la langue qui, à travers moi, à un moment donné, commence à être bousculée. Et puis je suis quelqu'un de bavard, il faudra que tu m'interrompes si ça va. Enfin, je suis quelqu'un de bavard, aussitôt que tu ouvres les vannes, je sais écouter aussi. Mais bon, une fois que tu ouvres les vannes, voilà, c'est parti, je vais parler pendant des heures. Par exemple, en performance, quand je fais des performances sur scène, comme ça, je commence à raconter des choses relatives au langage, comment ça s'est passé quand j'étais petit, quand je parlais pas, quand je raconte ma vie, comme ça, ça n'en finit plus. C'est vrai que je peux parler comme ça, et puis au bout d'un moment, on ne comprend plus du tout ce que je dis. C'est-à-dire, je fais des associations entre des choses extrêmement diversifiées, ça peut être des énoncés que je prends par-ci, par-là. Je jongle avec tout ça. Tout ça, ça devient un mélange de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire de faire ces associations avec une langue bizarre. Des fois, on la comprend. Il y a du Zaoum, bon, voilà, c'est une sorte de patois poétique. Bon, on voit un petit peu ce que le personnage est en train de dire. C'est très, très oralisé. D'ailleurs, c'est vrai que les derniers livres que j'ai écrits, Argossi, Zaoum, sont vraiment des livres faits pour être dits. C'est pour ça que sur le Zaoum, il y a un QR code, et puis on va directement sur le SoundCloud, puis on entend ce que je dis. C'est quand même beaucoup plus facile, quand on l'entend, comme ça, de comprendre que de le lire sur le livre. C'est pour ça que j'ai voulu, avec l'éditeur... associer les deux choses. Donc voilà, ça parle. Il y a quelque chose qui se fait, mais qui est bizarre. C'est pas du français. Il y a un mélange d'anglais, il y a un mélange d'espagnol, il y a un mélange. Je suis franc-comtois moi d'origine. Il y a un mélange de patois franc-comtois, comment parlaient les gens comme ça. Et tout est un petit peu déstructuré à l'intérieur de ça. Mais l'origine. C'est pour ça que c'était intéressant que tu aies passé ce morceau au début. L'origine, c'est voilà, c'est un surgissement intérieur qui n'est pas calculé, qui est surprenant. Puis après, bon, au cours des années, j'ai appris un petit peu à instrumentaliser. Le mot est pas agréable, mais j'ai un petit peu appris à manier tout ça, tu vois. Et puis, bon, voilà, quand le surgissement il est là, je le garde, je peux le ressortir plus tard, etc. Mais souvent, c'est subit. Subite.
Il y a une fille en Angleterre qui est devenue très célèbre, qui se fait appeler maintenant K tout court, Tempest, et qui fait du William Blake en fait, mais d'aujourd'hui, donc, et qui est publié à l'Arche par exemple, qui est un éditeur prestigieux, qui édite le théâtre, qui est un peu notre, qui est à la place Saint-Sulpice, qui est un peu notre classique du théâtre. C'est Germano-Pratin, reconnu, bon, je parle de la traduction. Et il y a de la musique derrière, donc c'est du slam, c'est entre le rap, le slam et tout, et elle est très très populaire, c'est-à-dire qu'elle passe à la télévision, tout ça, c'est une fille qui avait un physique très ingrat, qui avait c'est un Yale maintenant, donc elle est devenue, elle n'a plus d'assignation sexuelle. Et elle a vraiment évolué énormément physiquement, elle est devenue assez belle, il y a eu un énorme travail sur son look et tout. Et donc, je pense à ça, c'est sur le désespoir en France du rapport entre la langue et la musique. Et là, on a quelque chose, enfin, tu vois, le slam et tout ça. Mais je voulais juste attirer l'attention sur le fait que tu travailles aussi avec des musiciens, en fait.
Oui.
Et ça vient de surgir devant moi, là, en t'entendant. Quand tu fais une performance avec les musiciens, est-ce que la formule est différente? Est-ce que le rapport que tu as toi-même au langage et la réception que tu constates chez les gens est différente?
Oui, avec les musiciens, la démarche est la même. Mais on travaille donc avec le mur du fond, on est en trio avec Francis Larvor à l'électroacoustique, au micro, au traitement du son, et Jack Pocha qui est au saxophone, traité également par l'électro. Et là, je suis beaucoup plus attentif à l'aspect sonore. c'est-à-dire autant dans ce qu'on a entendu, dans ce que peut-être tout à l'heure j'aurai le temps de lire un petit peu, c'est de la langue, c'est de la parole. Avec les musiciens, c'est véritablement des « ils ne m'accompagnent pas », si tu veux. Ça, c'est une formule que je ne supporte pas, être accompagné par la musique. Non, je suis également musicien avec eux, mais musicien avec la langue. Si bien que tout est fait un petit peu en interaction. Il y a beaucoup d'écoute entre nous, et c'est des concerts performatifs qui sont... généralement, c'est surprenant. Oui, c'est improvisé. On est sur des bases. Bon, il y a quand même, on sait à peu près où on va, on travaille, on répète, mais c'est quand même sur une base de l'improvisation. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas où ils vont aller, et eux ne savent pas où je vais aller, donc on est toujours obligé d'être en écoute. Et il y a des textes aussi qui sont fixés.
C'est marrant parce que donc, j'ai fait mon premier fanzine en 75, je pense, peut-être en 74. Et un des principes qu'on a instauré tout de suite, c'était qu'il n'y avait pas d'illustrateur, qu'il n'y avait personne qui se mettait au service de quelqu'un d'autre. Que donc tout se valait, les images valaient en soi, et que jamais on demandait à quelqu'un de s'occuper du travail de quelqu'un d'autre. Si tu amenais un dessin, soit on le publiait, soit on ne le publiait pas. Et en général, on publiait tout, vu qu'on était dans une petite ville. Et que l'idée, c'était quand même de réunir tous les gens créatifs de la ville. C'est comme ça que je te vois, moi, comme quelqu'un, justement, très actif. Et j'ai vu passer sur Facebook, je pense, une de tes activités qui m'a intrigué. Tu avais des caddies et tu distribuais des livres dont la tranche était dorée. Que tu donnais aux gens, je ne sais pas, qu'est-ce que c'était comme événement.
Je réattribue en fin de compte l'initiative de cet événement à François Massu, qui s'occupe de l'association Poésie is not dead, qui est un grand instigateur de performance aujourd'hui. C'est extrêmement généreux son travail, il collecte des tas de vidéos sur des performeurs des années, je sais pas, il y a Blaine, il y a Lucien Suel, c'est très intéressant son travail. Et de temps en temps, ben voilà, il nous demande, voilà, j'ai un événement là, est-ce que vous venez. C'est très généreux. C'est, bon, on n'est pas payé, je dis on fait ça parce qu'on a envie de le faire. Et là, donc, il avait reçu, c'est vrai que cette histoire est extraordinaire. Il y avait dans les années 90 ce qu'on appelait la BIPVAL, Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. Tout le monde, c'était, oui, ben dans le Val-de-Marne, à Créteil ou à Ivry, je crois, voilà. Tous les poètes qui avaient envie qu'on parle un petit peu de leurs livres envoyaient leurs bouquins là-bas et puis ils stockaient là-bas dans un endroit. Puis au bout de la biennale a cessé, je fais vite, hein. La biennale a cessé, il s'est retrouvé des stocks. Bon, le truc a été vendu, je crois que ça s'est passé comme ça. Il fallait débarrasser les livres, donc c'était soit la benne, soit il y a quelqu'un qui vient les prendre. Donc François a pris ça, il dit bah non, on peut pas envoyer tout ça à la benne, il y avait plus de 1000 livres de poésie, c'est pas... ça fait peur. Donc et il a dit, bon, bah, on va les prendre. Il les a pris. Et puis, il a dit, bon, on va faire un événement avec des caddies. Et puis, on va les donner aux gens. Puis, on fait des performances. Donc, il avait fait tout un travail. C'était selon... Enfin, l'idée venait pas de lui un petit peu. Elle venait de Filiou. Filiou qui avait fait ça dans les années... je ne sais plus, à l'époque.
Donc, un des fondateurs de Fluxus, un des membres de Fluxus.
Robert Filiou. Ouais. Donc, il avait fait tout un trajet où il faisait des performances dans Paris, comme ça. Bon, on va faire quelque chose un petit peu comme ça. On aura des stations. Chaque performeur avait des stations. Et là, il faisait une performance avec... Bon, moi, je me rappelle, j'avais une grande pancarte. Là, c'était marqué quoi ? Oui, les poètes sont des gens dangereux. Ils pourraient tuer pour des mots, tu vois, en plein devant la pyramide du Louvre. Tout d'un coup, là, on avait toute la sécurité sur le dos, tu vois, bon, ils ont été gentils, mais ils ont dit, bon, vous dégagez, quoi. Tu vois, des événements qu'on faisait comme ça devant l'Assemblée, l'Académie française, avec ma pancarte, la poésie vous emmerde, tu vois. Bon, les gens regardaient ça, ils disaient, oh là là. Puis chacun, il y avait d'autres, bon, il y avait Blaine, il y avait ton ami, Madecheng, voilà,
Madecheng. Il a touché la Légion d'honneur, tu sais.
Non.
C'était horrible, il a reçu la Légion d'honneur à Beaubourg.
Ah bon ?
Et j'y étais. Et il y avait 500 personnes. C'était vraiment extraordinaire. Il a fait une performance devant 500 personnes. Bon, majoritairement des Chinois, mais aussi tout le gratin français. Et donc, pour un dada comme moi, enfin, et prostitue, tout ça, avec un de mes amis qui touche la Légion d'honneur, c'est quand même la déchéance complète. Mais Madecheng avait l'air très content. Et comme il a la polio, donc je ne voudrais pas être misérabiliste, mais... Et c'est pas son état, enfin, c'est pas la Chine qui lui donne une décoration, je sais pas, c'est. Parce que Madecheng faisait les Dazibao, c'est la génération de Tiananmen qui était très révoltée, et j'étais là quand il est arrivé, peu importe, mais Il avait une pêche d'enfer et c'était un vrai voyou. Et c'est pour ça qu'on s'est bien entendu. Mm-hmm. C'était une crapule quand il est arrivé. Il était très libidineux. Il était absolument remarquable. Il disait du mal de tout. Il était formidable. Et voilà que ce pauvre homme, maintenant, il a touché la Légion d'honneur. Donc ouais. tout peut arriver.
Je ne savais pas.
Non, ça ne nous menace pas, je crois. Mais quand même, c'est très, très étrange. On va écouter le deuxième document que tu m'as donné.
Zakédé, Pop Pop, poème lettriste. Zakédé et Zakédé et Zakédé et Pop Pop Pop. Zakédé et Zakédé et Pop Pop Pop. Pidou ah, pidou ah, pidou ah. Oh sec, oh sexy, oh sec, oh sex city, oh sita, sita, sex sita, oh city, oh sex sita, sita, ici aussi, oh souk, 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 saké, sik, 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 sek, 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 top, top, téma, 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 top, 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 téma, 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 top, 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 qua 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 ape 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 o a pa pa pom 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 a pom 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 a pom pom pidu pidu a a a a eta 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 uta 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 mi uta mi eta uta eta eta mi eta mi eta mi uta 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 mi ta uta mi uta mi o tatami 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 tonami tonami tatone tatone ton ke 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 ki ke ka ke ka ke kon ke kon ke kon ke ka ke ku ka ku ko ke qua 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 caco caco caca caca coca 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 ça oh 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 ça sans se dire sans se dire ça se dit ça se dit pas pareil sans se dire ça fait caca 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 caca.
Merci. Il faut que j'ajoute une chose pour tout le monde et pour toi en particulier. Il y a une très très belle sélection des œuvres de Madocheng à Beaubourg, justement. D'accord. Exposée dans le musée, et c'est absolument remarquable. Et il y a une autre de mes copines, qui est une Allemande qui doit avoir 82 ou 83 ans, qui s'appelle Gudrun von Malzahn, qui dessine des arbres sur du papier de journaux d'il y a 50 ans, enfin, elle a des rouleaux qu'elle a conservés, qui sont sur le bord, le dos. Ils font des box. Et donc Madocheng est dans un box, vous voyez, dans les musées, on élève des parois comme ça, et donc on fait une pièce fermée. Et sur un des murs extérieurs de ce box, il y a Gudrun von Malzahn. Ça m'a fait un choc aussi, parce qu'il y avait trop de monde, on étouffait, donc je suis sorti. Et je vois Gudrun qui surgit là devant moi, 5 dessins de Gudrun, je ne sais pas combien elle les a vendus. C'est donc un peu plus grand qu'un homme, et elle a un dispositif où elle dessine pendant des mois en reculant, elle est devant l'arbre. Et elle dessine l'arbre au crayon comme... c'est comme une peinture classique chinoise, là, avec énormément de détails, et très, très attentif à son objet. Et sur des arbres mythiques, c'est vraiment d'époque. Sur un papier orange, donc vous voyez à peu près ce que ça donne, quoi, un arbre. Mais ça ne fait pas du tout hyper réaliste, ça fait plutôt paysage un peu rêveur. Le truc de Léonard de Vinci qui disait qu'on pouvait rêver devant un mur... un mur un peu moisi, qu'on regarde les taches, et que dans ces taches, on va voir tout un univers arriver. Et donc, tu m'impressionnes quand même beaucoup par tout ton activisme. J'ai vu que dans ton livre, à la liste de tes publications, tu as renoncé à les mettre toutes, tu n'en as mis que deux. Mais maintenant, tu en fais référence à des sites, en fait, les gens regardent sur des sites.
En règle générale. Ce que je fais de plus en plus, j'y pensais en venant. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter à la radio? Mais on va me poser des questions sur la poésie. Et puis, en fait, j'ai un petit peu de mal, moi, avec ce terme aujourd'hui, de me retrouver dans ce qu'on appelle la poésie. C'est vrai que ce que je fais, moi, maintenant, je dirais que c'est de la parole. C'est-à-dire, voilà, c'est une parole, mais c'est assez distinct, en fin de compte, de ce qu'on peut appeler le livre de poésie. D'ailleurs, les livres, comme j'ai dit tout à l'heure, le livre de poésie aujourd'hui, pour moi, est un support. C'est un support pour l'oralité. Ce qu'il y a d'intéressant, enfin bon, modestement dans ce que je fais, je crois, c'est de me voir. C'est de me voir lire, de me voir en performance, de voir comment ça se passe, comment je suis transformé immédiatement quand je commence à parler. Bon, il y a une voix de l'intérieur qui vient, et je suis embarqué par ça. Et c'est vrai que des fois, bon, ben, j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui gesticule comme ça avec de la poésie. C'est ça qui est intéressant. C'est comment...
l'incarnation qui compte plus que le résidu.
C'est ce mot-là. C'est l'incarnation. C'est-à-dire, c'est complètement... c'est là que ça se transforme. Puis aussitôt que c'est fini, bon, j'arrête, je redeviens quelqu'un.
Tu regarderas
normal,
le livre de Kate Tempest qui s'appelle Chaos, mm-hmm. et tu le regarderas, c'est bien pour toi, parce que c'est une voie pour la com qui peut être très bonne, parce que c'est prestigieux quand même, et donc tu as énormément de trucs sur YouTube, et puis c'est des millions de vues, enfin je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je m'en fous, mais c'est au moins des centaines de milliers de vues, donc c'est accessible si tu
veux.
Après il y a tout l'habillage musical qui fait la différence. Parce qu'on est quand même... Mais je t'approuve à 100% de sortir du ghetto de la poésie, du mot poésie. Il est très difficile à utiliser le mot poésie après Apollinaire. Là. On a fait une heure avec Jean-Michel Elliott, un autre de mes amis que tu connais bien, sur Denis Roche, là, sur quelqu'un qui avait écrit un livre sur Denis Roche. Donc on s'est intéressé à cette génération qui vient après les lyriques René Char et tout ça. Et déjà, par exemple, Denis Roche, j'ai lu du Denis Roche et... Le mot poésie ne convient pas. Je ne sais pas quel mot il faudrait utiliser, mais parce qu'on identifie quand même la poésie à un certain lyrisme, à une certaine, à une certaine conception du langage. Enfin, c'est même presque un paradigme en français qui s'est fermé avec Apollinaire, mais il y a justement un copain de Denis Roche qui s'appelle Roubaud, qui écrit la fin d'Alexandre. C'est l'arrivée du vers libre avec Rimbaud, tout ça, et ça se passe là, ça se passe entre 1885 et 1895. Mais la chanson, puisqu'on va parler après des Pink Floyd, par exemple, a gardé toute sa fraîcheur et s'est renouvelée. Et par exemple, moi, j'ai adoré l'arrivée d'Higelin, de Bachung, quand je dis Bachung, je pense à Boris Bergman. Donc, c'était à la fois mettre la musique avant les textes, mais quelqu'un comme Bergman qui écrit magnifiquement bien. Gabi, tu veux que je te chante la mer? Enfin, c'est un grand moment dans ma vie. C'est quelque chose, j'aurais adoré écrire une chanson. C'est quelque chose de magnifique, non?
Absolument.
Vas-y à toi, vas-y, absolument. Prends la parole. Putain, mais non, garde, fais un coup d'état. Montre-nous ce que c'est, comment tu appelles ça, la parole?
Oui,
c'est vas-y, parole. Montre-nous. Allez. La parole en action.
On fait un petit peu de Zaoum, là. Zaoum d'Iroise. C'était dire l'omercitan. Avec Émy Bonport, la curatelle a vaincu l'os deltan. Hein? La rongère. Et c'est mi-flore à l'oreille et gouaille à la choube. Oh, c'est sainte si fort du masculin qu'on le savait venir du bas de l'ambézélec, celui-là. Et souillé que dicte-t-elle récitéré. Waouh! Cette fatinade déchampée à l'agir des mois. Honteux des quoi, hein? Mémant d'hiver de la main creuse au franchet latin, pour ben questonner la matière des soies. Jean Ouida, à tempérer du corps, non point soulage du devenir l'autre en soi. Si, ma dieu, m'a survient-du la semblance avisée, d'acointe charnel, totowert, à l'estéreur des suites. V'là des soucis d'avenir, bardés d'insoupiance de la mocheté des hommes et des fumelles aussi, hein? Comme tel égard à lui conférer sa main des visus potentiellement. Lady perçut l'impénétrable du voir, et j'ai vu quelquefois ce que Zob a cru voir. Vox étanche, acquesté, parole étrange. Car du péril en ça demeure l'ennui d'escrire. D'étarquer le mol du sens, de gouvernailler dans la passe du réel équivoque, équivaque, à ses occultations de vocales évocatoires, évocaboire, évocacroire. Oh, quel dire comme ça veux-je exciter, hein, dis donc? La sainteté des phrases par des mots qui sont articules de vivance toutes. Ça comme, qui bouge dans l'étui à faire saillir l'os du texte hors le contextuel. S'en froute partout de l'addiction à la porosité des vies, jusqu'à noyer dans l'autrui la bascule au péritoine. S'immiscer par semences intercostales, viscères au lieu dit du contentement des chairs et tendres confites de plaisance d'un autre vertébré. Oh,
sommaire et sphincte qu'il fallut la maraude au déni d'acter, n'est-ce pas ?
Merci. Écoute, merci. Hein, on va passer au deuxième sujet, si tu veux bien. Merci,
vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, maintenant, nous allons aborder les Pink Floyd avec notre bookzine. Bon, il est épais, il est lourd, hein, il est magnifiquement illustré, il vaut 15 €. Il a été fait par un crowdfunding, il est tiré à 500 exemplaires, donc précipitez-vous, c'est rare. Et donc, je m'aperçois que je connais le nom d'un de mes invités qui s'appelle Vincent Puren, mais je m'aperçois que je n'ai pas le nom de Olivier. Maintenant, je cherchais désespérément. C'est quoi ton nom de famille, Olivier ?
Olivier Altier.
Altier ?
Altier, oui.
Altier. Et donc, c'est toi qui as coordonné ce bookzine.
Oui, tout à fait, ouais.
Et donc, il est fait en deux parties. La première partie, c'est 6 dossiers sur les Pink Floyd en 1969, comme je vous disais avant. Donc, il y a 2 albums. Il y a un film qui était tout à fait formidable pour l'époque. Un festival qui a lieu en Belgique, qui est l'équivalent des grands festivals américains dans une version un peu ringarde, disons. Et il y a quelque chose qui est intriguant, qui est écrit sur la couverture, 69, année roi-otique. Ensuite, on a la phase B, donc la deuxième partie, c'est consacrée à l'année 69. Alors, il y a Get Back, il y a Bet In pour la paix, donc ça, c'est Yoko Ono et Lennon. Space Oddity, donc on sait que c'est David Bowie. Charlie Manson, c'est la fin du Flower Power, hein, c'est quelque chose qui est tout à fait mythique. The Band, ah ben ça c'est peut-être le seul truc que j'ai pas lu, c'est le groupe qui accompagnait Bob Dylan. Fuck 69, donc c'est tout ce qu'il y a autour de l'utilisation du mot fuck que j'ai bien aimé. Et Paul McCartney, c'est aussi peut-être quelque chose que j'ai pas lu. Et We Bleed que j'ai lu. Gourmandise sonore, et donc c'est les disques de l'époque. Et Picorage cinéphilique, pour que c'est assez passionnant parce que c'est une très très grande époque sur les films. C'est absolument. C'est l'année de la horde sauvage, c'est l'année de. Merde, le film mythique avec les deux mecs sur la moto.
Easy Rider.
Ah, c'est vraiment un très très grand cru. Il y a plein de trucs qui ont marqué, qui dépassaient largement leur signification. Et par exemple, Mort, le film dont les Pink Floyd vont faire la bande-son, j'en ai un souvenir qui est un véritable éblouissement. Et je dois dire qu'en lisant 1969 tout azimut sur cette question particulière de Mort, j'ai compris la raison de mon éblouissement, parce qu'il est bien expliqué que Barbara Schroeder était un ami d'Eric Rohmer, ils vivaient d'ailleurs dans la même maison, chacun à un étage, et que la première partie de Mort est vraiment de la nouvelle vague, tournée avec des moyens légers, avec quasiment la caméra à l'épaule, donc c'est quasiment un documentaire sur la vie à Paris à l'époque, et que la deuxième partie multiplie les transgressions et toutes sortes de transgressions, à la fois au niveau du contenu et de la forme. Par exemple, l'héroïne est tout le temps en t-shirt, et il faut en faire l'équivalent de Jean Siberg dans À bout de souffle de Godard, c'est-à-dire en faire une diva d'une fille qui n'a pas de forme et qui est en t-shirt. Et puis il y a l'apologie de la drogue quand même, ils sont et puis Ibiza est tellement beau. Et puis ce côté allemand du film aussi, c'est ce groupe, mais ça c'est pas raconté dans l'article, mais c'est dans mon souvenir. À un moment, il y a des Allemands qui se mettent à chanter dans une brasserie à Ibiza. C'est tellement extraordinaire, on dirait du Houellebecq avant que Houellebecq ait même été conçu. Non, il a quand même un certain âge, mais c'est extraordinaire. Et donc on a ça. Donc Olivier, à toi, raconte-nous ce que c'est 1969 tout azimut.
J'ai déjà commencé par un peu présenter le collectif. On a un collectif qui existe déjà depuis 20 ans. On a débuté en tant que sur un webzine. Et on a, au bout de quelques années, au bout de 2 ans, on s'est arrêté. Et il y a un ami qui est arrivé sur le projet en disant bah, « Moi, j'aimerais bien faire une version papier, du coup. » Et on est parti sur 5 fanzines à l'époque, entre 2006 et 2010. Donc c'était quelque chose qui était assez différent dans la forme. C'était plus côté vraiment fanzine, fan. Voilà, en tout cas, c'est moins audacieux que ce qu'on a fait là, je pense. Et on a eu un gros break, on a un peu arrêté, chacun était pris par d'autres choses dans la vie. Et c'est Franck donc, qui a fait toute la mise en page du bouquin, qui est arrivé avec l'idée de relancer un peu la machine, en disant, moi j'ai une idée d'un truc qui va être différent de ce qu'on faisait à l'époque. Et donc il a proposé cette maquette avec quelques articles qu'on avait auparavant. Et on a dit, banco, on se relance, on va essayer de remonter le collectif. Et donc tout le monde était partant, tout le monde est reparti comme en 19. Et puis voilà.
On peut dire que le livre est très gratifiant sur son côté imprimé. Il rend bien. Il y a un gros travail sur la maquette, il y a un gros travail sur la presse. Enfin, c'est très très réussi, c'est très clean, c'est très. Parce que effectivement, pourquoi ne pas le faire en ligne ? Donc si on ne le fait pas en ligne, il faut que ça vaille la peine. Et là, l'objet vraiment vaut vraiment la peine. Il est tout à fait concurrentiel pour ses 15 euros. Je fais de la pub, mais c'est vrai. Je pense que c'est très, très réussi. Il est très gratifiant comme objet.
C'est vrai qu'il y a eu un gros débat sur le prix. C'est vrai qu'on voulait qu'il soit abordable. L'idée, c'est d'être lu, c'est pas d'être élitiste. Et donc, c'est vrai que comme on va vendre essentiellement en ligne... Bon, le bouquin présent à l'Ébris Parallèle et chez un disquaire pour l'instant au Batignolles, au Lacsex. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est que ce soit quand même quelque chose qui soit abordable et donc voilà. Donc c'est vrai que quand on a vu l'exemplaire en main, en vrai, on s'est dit oui, en effet, 15 euros, c'est bien comme prix.
Tu as vu le documentaire sur la Librairie Parallèle?
Non, je n'ai pas vu.
La fille qui a fait ce documentaire, elle est venue ici. Et au bout d'un moment, ça te fout le cafard. Ça devient un peu pourri, ça pue. Enfin, tu vois, c'est collectionneur de disques et ces machins et tout le côté parallèle. Et c'est quand même quelque chose qui a eu une importance fondamentale. Enfin, moi qui faisais des fanzines, tout ça, fondamental dans nos vies. C'était un endroit magique, en fait. Et puis tous les gens qui venaient de province allaient chez Parallèle. C'est la première chose qu'ils faisaient. Et moi-même, la première fois que j'étais allé à Parallèle, je suis venu de province avec un type en voiture et il est allé chercher l'argent de la vente du numéro précédent. Et apporter les nouveaux numéros, c'était vachement émouvant. Et l'endroit était magique. Enfin, c'était les Halles, quoi, quand même. C'était vachement bien. Et je dois dire que, par exemple, je n'y avais pas du tout pensé en lisant 1969 tout azimut, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout la tristesse qu'il y a à la fin du documentaire sur Parallèle où tu étouffes un peu, tu vois, où tu perds. Là, on retrouve un objet qui est vraiment bien, qui je pense, va être très gratifiant pour les gens que ça intéresse. Et si je comprends bien, en fait, il est payé quand il sort, en fait. Les frais sont couverts, puisque c'est un crowdfunding. Comment ça marche ?
On a réussi, un peu pile-poil, mais on a réussi. Ouais.
Et donc, c'est très stimulant. Il y aura un tu as dit là qu'il y avait un numéro suivant ou bien c'est
oui, alors on va faire un saut de 10 ans pour le prochain. Ouais. Ça sera pour 119, donc ce sera chez The Wall. Car on a pas mal de... Bon, comme on est resté inactif assez longtemps, on a travaillé beaucoup de choses inédites qui ne sont jamais sorties. Et donc, l'idée, c'est de partir sur 10 ans après et voir une autre décennie, comme ça, voir ce que ça va proposer. En fait, lorsqu'on a abordé le sujet de 69, c'est vrai que c'est arrivé un peu par hasard, parce qu'on a cherché qu'on a fait la nouvelle formule, on a cherché un peu ce qu'on pouvait faire, on est reparti sur des anciens textes ou des textes inédits qu'on avait sur la période, et c'est ce qui est sorti massivement. C'est vrai qu'on va dire que sur le plan business plan, c'est pas le meilleur choix de démarrer par l'année 69.
Pour les Pink Floyd,
non. Qui est plus grand public, qui n'est pas forcément ce qui est la porte d'entrée.
Si tu avais commencé par 79, oui, tu aurais eu plus de...
Tout à fait,
The Wall, c'est vraiment... il se passe quelque chose qui est indéniable, qui est incontestable.
À des gens, ouais. Et c'est vrai que 69, finalement, c'est une bonne année pour débuter cette série de livres qu'on espère nombreux. Parce qu'en fait, on l'espère, ça va être une série de livres par année. Donc, au début de la période de Pink Floyd, c'est plutôt facile parce qu'ils sortent un ou deux albums par an. Donc, ça va aller. Après, ça va être un peu plus délicat au fil des ans. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de sortir une collection avec différentes années. Et donc, là, c'est vrai que c'est intéressant de démarrer par cette année, parce qu'en fait, c'est une année qui va être primordiale dans le groupe. On sort de la fin de Syd Barrett, donc Syd Barrett qui est connu, qui a été le premier leader et songwriter du groupe, qui a eu une grosse crise à cause du LSD, et donc qui a été mis de côté du groupe. Et donc en 68, la 68, c'est une année qui va être c'est un entre-deux, en fait, entre les anciens morceaux de Barrett et le renouveau qu'il va y avoir. Et c'est vrai qu'avec 69, il redémarre vraiment sur une nouvelle lancée. C'est un groupe avec quatre individualités, donc ceux qui vont faire cet album qui est un peu bizarre, qui est Oumaguma, qui est leur premier album après l'ère Barrett. et qui vont eux-mêmes finalement faire une partie solo à quatre. Et ils vont sûrement se rendre compte que le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'ils font en groupe, et donc ils vont finalement finir par faire un album live en complément pour faire un double album. Donc qui est le premier album culte du Floyd.
On retrouve un petit peu ce qu'on discutait avant de poésie, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté intello qui les prend. Ils prennent des décisions et ils font un spectacle aussi où ils s'inspirent des situationnistes de la remise en cause de la vie quotidienne. Hein. Donc l'idée des situationnistes, ça venait d'Henri Lefebvre, c'était de mettre la vie quotidienne à l'ordre du jour. Que ce qui comptait, c'était pas de changer les gros trucs, les institutions, les États et tout. Ce qui comptait, c'était de changer la vie tous les jours. Et donc ils font un spectacle et ça fait penser au théâtre allemand des années 20, par exemple. Ça fait penser évidemment à Bertolt Brecht, à Kurt Weill, à des choses comme ça. Hein, les Doors ont chanté un morceau, par exemple, de Kurt Weill, hein, qui va très très bien marcher. Et on voit bien ce côté intello, comme ils vont y renoncer, comment ils vont devenir autre chose. Justement, ils vont abandonner l'utilisation du mot poésie, mais aussi des mises en scène un peu lourdes. Mais leur idée est géniale de faire un double album et que chacun ait un quart d'heure et doive remplir son quart d'heure tout seul en studio et que l'autre album, c'est des lives. Mais ça reste quand même très cérébral. Enfin, il y a quelque chose. C'est une année cérébrale. Et ou sinon, pour 69, alors moi je suis bon public, mais c'est quand même l'année où De Gaulle quitte le pouvoir, où Nixon prend le pouvoir, où il y a la première émeute homosexuelle aux États-Unis, hein, qui est très très connue, sur laquelle il y a eu un film qui a formidablement bien marché, où il y a un tas de choses qui se passent. Il y a les Indiens qui s'emparent d'Alcatraz, les Indiens d'Amérique du Nord, qui s'emparent d'Alcatraz. On a tout le woke d'aujourd'hui, par exemple, qui est là en germe, qui bouillonne, qui arrive. Hein, on aurait pu y ajouter, d'ailleurs, dans la revue, les gens qui ont traité la partie historique auraient pu trouver des choses un peu féministes, par exemple, mais on sent que c'est un peu masculin, quand même, tout ça. Les Pink Floyd, par exemple, c'est très masculin.
La partie faite, par exemple, il y a Betty Tompkins, ouais, qui fait des tableaux assez audacieux pour l'époque.
Et puis en plus, le fuck, il est très, très masculin. Il ne faut quand même pas non plus cracher dans la soupe. C'est leur chapitre sur le fuck. Il n'est pas très respectueux, je ne sais pas comment ils disent. C'est un peu malaisant, comme ils disent aujourd'hui. Malaisant, oui. C'est un peu malaisant, hein. Écoute, on va écouter un morceau qui va nous rappeler ce que c'était. Enfin, de façon détournée, nous allons écouter un morceau de musique.
Later.
Donc, pendant que j'y pense, parce que j'oublie toujours en fin d'émission, j'en profite pour remercier Enrico, Mastro Giovanni et Pierre Leborn qui sont de l'autre côté de la vitre. Merci à vous d'assurer ce direct. Et, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Vincent? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
C'était Étienne Dao.
Ah oui.
Avec une reprise des Floyd.
Silvestre Minor, donc on trouve dans Mort. Qui ouvre l'album Mort. Ouais.
C'est assez étonnant, ça marche assez bien. Il a le feeling là.
Hein. On le connaissait, fan de Barrett, il avait déjà repris du Barrett, mais c'est vrai que là.
Il y a beaucoup de feeling, ouais, c'est assez agréable. Ouais, on comprend ce qu'il a trouvé chez Françoise Hardy quand on entend ça, le côté. Et Vincent, il y a tout un passage, enfin il y a des pages sur les affiches, là, comme des Pink Floyd, là, que j'ai trouvé assez passionnant, moi. Tout ce côté, c'est assez agressif et puis c'est peu flatteur en fait. C'est pas pour Dacom qui vient juste après le Flower Power. Ils s'inspirent de l'expérimental allemand là justement. Ils sont avec des bas de casse, des choses quand même assez très très agressives, des collages. Je sais pas si t'es. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quoi toi dans ce numéro?
Alors moi je suis un peu une pièce rapportée du collectif. En fait je suis avant tout un ami d'Olivier et quand ils sont partis sur ce projet, il y a un moment Olivier m'a demandé si je voulais faire des illustrations pour un article. Je crois que c'était les Beatles, le premier.
Le McCartney, ouais.
Ouais, c'est ça.
De mort de McCartney.
Et puis eux-mêmes, ils ont été emportés dans leur boucle et de une illustration, je me suis retrouvé à en faire je sais plus combien.
Tout finalement. Quasiment
tout. Voilà, parce que comme il y a deux parties dans le bookzine, il y a la 60, enfin tout ce qui concerne les Pink Floyd et qui concerne plutôt les fans qui vont pouvoir s'y retrouver. Et puis la phase B. Qui concerne ce que tu disais, Yves, l'année 69, et c'est là où moi je suis intervenu et donc j'ai fait des illustrations, ce qui a priori, enfin moi je suis plutôt peintre qu'illustrateur, mais mon travail frôlant avec l'illustration, l'exercice a été hyper agréable et puis c'est toujours agréable de se voir proposer illustration sur les Beatles, sur David Bowie, puis on parlait de Betty Topkins tout à l'heure, il y a qu'un dessin mais c'est sur ces peintures qu'elle a fait de pénétration et enfin sur sa série Fuck. Donc c'était bien d'aller gratter sur son travail préparatoire.
C'est quelque chose qu'on connaît pas du tout, ça. C'est vraiment.
Mais
c'est pas connu du tout.
Hein. Non, et puis c'est sorti. Je crois que c'est dans les années 2000 en fait seulement qu'on a retrouvé, alors que ça a été fait en 73.
Oui, ça a été mis en plus en valeur actuellement, mais c'est vrai que elle a été un peu censurée, donc forcément à cause de la censure.
Les films de Boirol qui ont été censurés aussi sont quand même plutôt connus, tu vois.
Oui. Après, il a pas eu la même.
Le même impact. Et donc, est-ce qu'il faut parler des bootlegs? C'est ta partie. Donc, est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs, enfin les tiens, Olivier, qu'il y a tout sur les bootlegs de 69? Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il y a?
Oui, là on a les articles.
Pour les fans fous, pour les vrais collectionneurs.
Là, c'est vrai qu'en termes de. C'est assez riche au niveau de cette année 69. Et puis, c'est vrai que le Floyd à cette époque, c'est. Bon, si on dit que c'est super, mais c'est vrai que c'est sur en live que ça prend toute sa grandeur. Donc là, c'est vrai qu'on a un grand spécialiste. On a la chance d'avoir un grand spécialiste qui est belge, qui est un francophone, donc, et qui est Marc-Olivier Beck, qui est un grand connaisseur du sujet, qui a participé, qui est un peu dans le milieu des gens qui s'échangent les enregistrements, Donc voilà, donc il a fait un dossier assez passionnant sur tous les enregistrements qu'il peut y avoir un peu, alors les de bonne qualité de cette époque. Donc, notamment, on fait les concerts d'Abouji, sur les concerts. Donc, la partie sur Omagouma est issue de deux concerts différents. Et on a niché récemment des bandes, des pré-mix, en fait. Parce qu'en fait, ils ont enregistré la partie live, a été enregistrée les instruments, mais ils n'enregistraient jamais les parties voix pour les refaire en studio. Donc, il y a eu un gros travail de tout refaire en studio au niveau des voix. Et donc, c'est pour ça qu'on disait toujours, bon, c'est un live qui est quand même très réussi, très bien capté, mais en fait, oui, il y a quand même une partie qui est... Même si la partie instrument n'a pas été touchée, toute la partie voix a été retravaillée. Et donc, il y a beaucoup de concerts comme ça, un peu, qui sont un peu marquants et qui sont décrits dans le livre.
Et toi, tu es fan des Pink Floyd?
Oui.
Tu possèdes combien d'enregistrements sonores?
Non,
est-ce qu'on peut évaluer?
En fait, on ne va pas dire que je suis le plus grand fan ou le plus grand collectionneur ou le plus grand connaisseur du Floyd. Mais moi, en tant que connaisseur, en fait, je sais qui aller voir pour, quand il y a un sujet particulier. Voilà, donc chacun a un peu dans le collectif a ses sujets favoris puis ses compétences. Et donc, voilà. Moi, mon rôle de coordinateur, ça va être de réunir toutes ces personnes-là. Essayer d'en tirer le meilleur. Mais par contre, oui, je suis fan du Floyd, bien entendu. Ouais.
Et donc ici, il y avait un jour Kent, là, tu vois, de Starshooter, le chanteur qui avait écrit un livre, qui était là pour parler de son livre. Et un monsieur qui écrit beaucoup sur l'art contemporain qui s'appelle Jean-Yves Bosseur. Et ce Jean-Yves Bosseur disait qu'il avait joué à Amouji, donc de la musique. Il fait de la musique électroacoustique. C'est un ancien élève de Stockhausen. Et Kent était fou. Après, il a branché tout ça. Donc Amouji, je pense qu'il est plus jeune, Kent, quand même. Bah, il a 20 ans moins par rapport à Bosseur qui était à Amouji.
Oui, peut-être qu'il était déjà plus à l'époque. Ouais.
Et donc là, il était très admiratif de ce Bosseur qui avait participé à Amouji. Alors quand on lit ce qui en est dit dans 1969, tout azimut, on a l'impression d'un truc qui est quand même assez ringard à côté de la plaque, assez raté, assez... par rapport à l'île de Wight ou à Woodstock, enfin, on est dans une autre dimension.
Anglo-saxon, c'est sûr.
Oui, et oui. Puis ça a été difficile à mettre en place. Et puis, mais par exemple, c'est écrit dedans... bon, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de scandale. Enfin, c'est ambigu comme histoire, mais Paris Match envoie 20 reporters pour couvrir le festival, puis ils font rien.
Ils
font rien parce qu'il se passe rien.
Il se passe rien, en fait. Oui.
Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de... Il se passe rien.
Mais même Franck Zappa qui était invité...
Qui joue mal, ça c'est excellent.
Oui, parce qu'en fait, il s'est retrouvé là à présenter les groupes, mais comme il ne parlait qu'anglais...
C'est un leader, il ne peut pas occuper une place comme ça de clown, mais non.
Oui, donc il s'est retrouvé finalement à improviser avec les groupes, notamment avec le Floyd, mais oui, il a en tiré une très mauvaise expérience. Il disait plus jamais ça, en gros, quoi, une fois qu'il a été pris.
Voilà, quelqu'un a l'idée, je me fais de la poésie Zappa, tu vois. Ça, c'est ce qu'on peut faire à la fois en étant à côté et dedans, tu vois. Et avoir un pied chez Capitaine Beefheart et puis de l'autre côté, fréquenter Boulez, c'est quand même le grand écart, hein. C'est quelque chose, hein. Et quand j'étais prof dans une école des beaux-arts, et mes étudiants m'ont amené du Zappa, par exemple, pour regarder Mille Motels, comment c'est quoi le titre c'est un film complètement délirant. Donc ça se transmet, c'est une espèce de culture beaux-arts, là, justement, ce qu'avaient les Pink Floyd, évidemment, enfin, ça crève les yeux qu'ils étaient... qu'ils avaient une forte culture, mais comme tous ces musiciens anglo-saxons, ils ont l'air tous d'avoir fait les beaux-arts tout le temps. Vous avez remarqué, les générations après générations, ils viennent vraiment des beaux-arts, en fait, c'est une grosse structure.
Le Floyd, Barrett venait des beaux-arts, il était peintre. Et après, les trois autres venaient d'écoles d'architecture.
Ouais, ben, c'est un peu la même chose. Hein.
Mais c'est ça.
C'est ouvert, tu vois.
Ils ont réussi à faire quelque chose, une architecture sonore. Et ça se reflète beaucoup dans ce qu'ils ont pu faire par la suite au niveau de la scène, au niveau de la codéphonie, de la recherche sonore, de la recherche structurelle.
Si je pouvais faire une remarque critique, là, c'est de faire le... Le Nil n'est pas ouvert, tranché en deux, là, comme fait Moïse quand il le traverse, entre les États-Unis et l'Angleterre. Parce que, par exemple, là aussi, que j'étais fan du pop anglais et t'as une culture quand même, parce que je pense à ça à cause de l'architecture. L'architecture est très présente dans le pop anglais et n'existe pas dans le pop américain qui est tout de suite une version quand même très commerciale, tout ça. Et donc c'est très difficile de comparer les cinématographies réciproques, les musiques réciproques, enfin... Miles Davis, quand il vient jouer ici, y compris dans les années 50, il s'emmerde. Il pense que les gens qui sont dans le public ne comprennent pas ce qu'il fait. Alors, c'est bien gentil de ne pas être raciste et tout ça, et de coucher avec lui, mais ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est au beurre lent et puis jouer un air qui, où il nique tout le monde, quoi. C'est nique ta race, quoi. Ce n'est pas juste être applaudi et puis que c'est joli, tout ça, il s'en fout. Puis tout son espèce de jazz rock progressif qu'il fait après, enfin, on voit... On est dans un... C'est tranché, quoi. C'est très, très différent. Parce que là, l'impression générale qu'on a dans la revue, c'est une espèce de bain, de bouillon pop, si tu veux. Et que c'est quand même beaucoup plus tranché. Il y a un côté intello chez les flottes qu'on ne va pas trouver aux États-Unis. Je ne vois pas de... Si tu prends un peintre, je ne sais pas, comme Liechtenstein, par exemple, ou Warhol, même, ça pourrait paraître très intello, ça ne l'est pas du tout. Et c'est bien ce qui va arriver avec Lou Reed et ses potes, c'est qu'ils vont arriver à faire ce qu'ils font sans avoir... Enfin, c'est compliqué, parce qu'ils font quand même des trucs très d'avant-garde. Là, ils poussent aussi le truc très loin, quand même, par moment. Hein, jusqu'à faire un disque inaudible, enfin, c'est quand même pas... Ils font pas le trottoir. Hein.
Non, non, ouais.
Ils chantent le trottoir, mais ils le font pas, quoi.
Walk on the Wild Side.
Non, et puis, on a vu le film de Laurie Anderson, là, j'avais vu ça sur les grands boulevards, elle fait un film, et c'est quand même Burroughs, Laurie Anderson, enfin, Burroughs qui vient sur la scène, ça fait très intello aussi, et ça fait penser au Pink Floyd par moment. Il y a quelque chose, il y a un esprit commun, non?
Ouais, après, je pense que c'est malgré eux, finalement. Je pense pas que c'était si intello que ça, mais... De par les sujets qu'ils pouvaient aborder.
Ah, tu parles de Floyd.
Ouais, du Floyd, ouais.
Mais c'est une culture quand même. Mais quand ils font tout ce happening sur scène, là, qui commence à clouer avec des marteaux, avec des scies, ça ressemble à ce que fait Patrice. Oui. Et puis qu'ils se font servir le thé sur scène après avoir fait le mobilier sur lequel ils vont s'asseoir. Ça fait pas non plus quand même très rock'n'roll.
Non,
t'imagines pas Elvis Presley faisant quelque chose de ses mains ou quoi? À part se toucher, tu vois, je veux dire, c'est tout un coup de hanche, là, c'est pas vraiment...
Mais ils ont misé sur d'autres choses, je pense.
Je pense à l'idée des beaux-arts, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Olivier, l'influence des beaux-arts, mais je vois, c'est pas pour revenir à la poésie, mais juste quelques minutes, la poésie aujourd'hui, dans les générations des gens qui ont 40 ans environ, comme ça, la nouvelle génération, par rapport à moi, sont très influents, ils viennent des beaux-arts, bizarrement, c'est des gens qui viennent pas de la poésie, ils viennent pas forcément de l'écriture, ils viennent avant tout de démarches qui sont une esthétique plastique, visuelle, comme ça, et c'est vrai qu'ils entrent dans la poésie, c'est très intéressant par ce biais-là. Si bien que ça fait complètement un renouveau quand on y voit en performance, comme ça, on va écouter de la poésie. Ben non, c'est quand même tout à fait autre chose. C'est vraiment une autre fenêtre, visuellement, d'un point de vue sonore, mais aussi du point de vue de la pensée. Il y a de la poésie conceptuelle, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la poésie conceptuelle? Ben ouais, c'est des idées qui sont mises avec une architecture de poésie. Ça pourrait être très compliqué, mais en fin de compte, non, pour eux, c'est naturel, parce qu'ils ont fait ces écoles-là. Et ça donne un souffle tout à fait nouveau de la poésie que j'appelle un petit peu de l'entre-soi, du genre les poètes parlent de poètes, tu vois, là il y a quelque chose véritablement qui s'ouvre et qui est intéressant. C'est vrai que moi je les fréquente quand même pas mal dans le milieu de la performance, et c'est vrai que l'aspect beaux-arts, comme tu disais tout à l'heure, bon là tu en parlais dans la musique, mais dans la poésie commence à être très intéressant, pour ceux qui savent le faire. Après bon, il y a pas mal de loupés aussi, hein, mais voilà.
Il s'est passé quelque chose, oui, mais c'est cuit là maintenant, mais on peut penser à tous ces cinéastes aussi qui étaient d'avant-garde et qui ont fini dans les musées. À un moment donné, je ne sais pas, moi, prendre Chantal Akerman, et à un moment donné, tout le côté du Floyd, le côté expérimental est devenu généralisé. Il y a eu une espèce, tu vois, il s'est passé que tu pouvais aller... À Paris, voir une exposition aux Tuileries, là, où il y a de l'Infeuillade Monet, et puis c'était du film qui était projeté contre le mur, ou des expositions de photos, bien sûr. Et donc, on va bientôt passer l'antenne à Cause Commune. Hein, on arrive à midi. Donc, nous avons parlé de 1969, tous azimuts, Pink Floyd. Je vous mettrai tous les renseignements de ce magnifique bookzine sur la page du podcast et de Patrick Cazel qui sort son livre Zaoum. Merci de nous avoir écoutés. À mardi prochain, Allegre FM 93.1.
Allegre FM 93.1.